France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
L'écriture de Nathalie Sarraute est une écriture du présent. Mis à part dans l'enfance, où elle ramasse et réunit des fragments d'un passé à la fois tendre et douloureux, son écriture permet de saisir un moment, un mouvement, et de lui donner corps par le langage. Il n'y a dans son écriture ni passé ni futur. Sa fascination est celle de l'immédiat, de ce qui se déroule discrètement et silencieusement le temps d'un battement de cils, et qui pourtant change tout. Contrairement à d'autres écrivaines et écrivains, il n'y a pas à l'horizon de son écriture de grands concepts ou un quelconque contenu idéologique. Il y a une étroitesse remarquable, ce qu'elle appelle elle-même une forme de spécialisation, où elle ne s'occupe que de ce point précis du réel, où pour elle tout se joue. Même lorsqu'elle s'exprime dans la presse ou à la radio, Sarraute peine à sortir de ce cadre. Elle parle avec plaisir de son œuvre, de son écriture, mais rarement d'elle-même, et de sa vie en dehors de l'exercice de son art. Cela ne l'empêche pas de penser, comme le reste des mortels, au temps et à la mort, comme elle le raconte au micro de Jacques Pogam dans ce numéro de Parti pris, diffusé pour la première fois le 2 juillet 1976.
Bonjour, l'invité du Parti pris mot à mot est aujourd'hui l'un des plus grands écrivains français, Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, quelle est la vérité qui vous gêne le plus ?
Alors, je crois que vous savez déjà d'avance la réponse. Est-ce que ce n'est pas celle que tout le monde vous ferait ? C'est-à-dire la mort.
Oui, c'est à 80%.
Les... Je crois 80%, j'aurais cru 100%.
Non, il y a des gens qui ont peur de le dire.
Oui,
je qui ont comprends. Peur d'y penser.
Je les comprends, tout à fait. Mais est-ce qu'il y en a un seul qui, s'il était sincère, ne dirait pas que c'est ça ?
Vous parlez de sincérité. Qu'est-ce que ça peut être, la sincérité devant la mort ?
Eh bien, vous me disiez justement qu'ils ont peur de le dire. Alors, c'est déjà quelque chose de pouvoir, d'oser y penser. Parce que c'est très dur et très difficile. Et puis, s'il y avait encore le problème de sa propre mort, on peut en venir à bout. Parce que finalement, elle n'existe pas pour vous. Mais c'est celle des autres qui est assez difficile à avaler.
Votre propre mort n'existe pas pour vous ?
Non, elle existe très fortement et constamment, mais je dis qu'avec un certain travail, on peut arriver tout de même à l'accepter, parce qu'en se disant, ben bon, ça sera comme c'était avant la naissance, et après tout, moi je ne le saurais pas, alors il faut juste espérer que ça se passera très rapidement. Par exemple, un accident de voiture, quelque chose qui... un coup sur la tête, et puis c'est fini, il n'y a rien. Ça sera comme c'était avant ma naissance. À ce moment-là, ça vous console d'une certaine manière, puisqu'on en sera inconscient, mais ce qui est effroyable, c'est qu'on sera terriblement conscient à chaque seconde de la disparition des proches. Alors là, ça, c'est encore plus, à mon avis, peut-être plus difficile à avaler.
Pour un écrivain qui vit dans la solitude, les proches ont une importance capitale ?
Oui, évidemment.
Mais vous dites que le travail, ça permet de, finalement d'exorciser l'après. Mais il reste l'avant, ce travail sur la mort. Se dire que c'est un instant à passer, on retournera à ce qui se passait avant la naissance. Mais est-ce que ça permet de combler tout ce qui se passe avant la mort ?
Mais tout ce qui se passe avant la mort, c'est la vie de chaque instant. Alors là, il n'y a pas de mort. Si on ne pense pas à la mort, Et justement, quand on travaille, c'est ça l'avantage de tout travail, c'est que ça empêche de penser à la mort. Alors, à ce moment-là, elle n'existe pas. Elle n'existe qu'au moment, généralement, quand on ne travaille pas, où on... Alors, à ce moment-là, elle se présente. Et le grand avantage du travail, ou de la distraction, ou des soucis, comme on l'a dit, c'est ça, c'est que ça écarte la mort.
C'est le but essentiel de votre travail ?
Oh non, certainement pas. Le but essentiel de mon travail, c'est de réaliser quelque chose dont j'ai la sensation que ça existe, que c'est là. C'est comme, si vous voulez, d'une certaine manière, la curiosité d'un savant, d'une certaine manière. Et en même temps, que ça peut être communiquer, que ça peut se mettre à exister au dehors, à travers une forme, à travers du langage, que ça peut se transformer en langage, être pris dans du langage, et qu'à ce moment-là, ça acquérera une espèce d'existence que ça n'a pas tant que le langage n'est pas venu pour le capter et pour le faire vivre, le faire exister. Alors c'est tellement intéressant et passionnant en soi qu'à ce moment-là, on oublie tout. On oublie sa propre mort, la mort des autres, et en général tout ce qui existe en dehors de cette chose-là.
Mais quelle importance que cela existe ?
L'importance que cela existe, moi je crois, c'est tout à fait ridicule, à certaines vérités, ça existe, c'est là, je le sens. Puisque je le sens, c'est que ça existe. Le fait même que je le sens signifie que ça existe. Donc, ça, comme je crois à la profonde identité de tous les êtres, à un certain niveau de la conscience, je crois que si ça existe pour moi, ça existe pour eux, et que par conséquent, ce langage, ce texte, fera se lever aussi en eux des sortes de sensations que jusqu'à présent peut-être n'était pas en eux consciente, que nous éprouverons en commun quelque chose qui est un certain élargissement du monde, un élargissement de notre sensibilité, comme tout art.
Donc ce travail, ça n'est pas uniquement une forme d'esthétisme pour vous, c'est une façon d'apporter plus de liberté aux gens ?
Je crois que c'est une façon d'élargir ces cadres étroits et d'écarter ce mur d'apparence qui nous entoure, d'essayer d'élargir de quelques millimètres. Les très grands génies ont fait d'énormes conquêtes et ont apporté d'immenses territoires non défrichés, mais même si c'est possible d'agrandir de quelques centimètres, eh bien, je trouve que c'est déjà, ça vaut la peine d'être essayé.
Lorsque vous cherchez à gagner ces quelques centimètres, est-ce que vous avez l'impression que vous vous trouvez dans un sillage d'hommes comme Freud, par exemple ?
Ah, pas du tout. Je dois vous dire que je n'aime pas du tout la psychanalyse. Naturellement, on sait que cette résistance a des significations évidentes et profondes. Mais je ne me suis jamais préoccupée des théories psychanalytiques. Et d'ailleurs, je crois que même si je croyais à la vérité de ces théories, et je n'ai plus fort doute sur la plupart des affirmations de Freud, mais je crois que ça m'aurait nuit, je ne devais pas m'en occuper de toute manière, parce que l'essentiel, c'est de sentir quelque chose par soi-même et qui n'a pas été encore vu par d'autres et pris dans des systèmes préétablis. Si je regardais, même si Freud était le génie, avait le génie qu'on lui attribue, si je regardais à travers la conception de Freud, à travers les théories freudiennes, à travers ses constructions, ben ça ne serait, je ne verrais plus rien et qui me permette d'avoir un langage frais, si vous voulez, assez intact, c'est-à-dire qui est en contact avec une sensation, si infime soit-elle, mais qui n'a pas été encore mise en forme. Ce serait tout à fait impossible d'utiliser quelque chose qui a été vu par d'autres. Or, mon inconscient, je le vois à travers la psychanalyse, c'est-à-dire l'inconscient, on ne sait pas ce que c'est, puisque c'est inconscient. On me dit que Freud a vu dans cet inconscient, et je pense que dans ce cas-là, cet inconscient est assez misérable, assez limité, d'une grande monotonie, s'il ne contenait que ce qu'il voit à la psychanalyse. Je pense que s'il existe véritablement, il doit contenir bien davantage, enfin, quelque chose d'immense. Mais alors il faut chercher par soi-même, et par soi-même, en dehors de la psychanalyse, on ne peut pas faire sortir quelque chose qui soit totalement inconscient. Il faut regarder, sentir dans quelque chose qu'on peut extraire soi-même avec ses propres moyens, avec ses propres outils, même s'ils sont mauvais, mais qui sont à vous, avec vos propres lunettes, et alors sentir quelque chose qui est aux limites de la conscience. Ces tropismes, on peut les retrouver n'importe qui, s'il avait du temps et s'il voulait se concentrer, pourrait retrouver en lui-même, sans l'aide de personne, tous ces mouvements que je montre.
Ces tropismes, donc, que vous exprimez à travers un langage frais, ce sont des sensations indéterminées, non ?
Elles sont, justement, elles n'ont pas de nom. Elles n'entrent pas dans les catégories de la psychologie. Ce ne sont pas des sentiments déjà connus, déjà classés, ce qu'on pourrait appeler la jalousie. Ou C'est quelque chose qui est là, qu'on ressent et dont on ne sait pas ce que c'est. Et qui ne peut être rendu que par des analogies, par des images que je choisis volontairement, très simples et banales, pour que le lecteur, très rapidement, puisse sentir quelque chose d'analogue à ce qui est en train de se passer dans ses consciences, dans ce que je montre. Ça peut être rendu par un certain rythme de la phrase. Ces mouvements qui passent en nous extrêmement rapidement, qui font que tout d'un coup, vous me dites quelque chose et je rougis, admettons. Eh bien, je n'ai pas le temps de m'y arrêter. C'est une chose qui est passée très vite. Après ça, il faudrait que je le reprenne, que je l'examine pendant très longtemps. Et alors, à ce moment-là, je retrouverai certainement tout un déroulement, toute une sorte d'action intérieure qui aboutit au fait qu'en une seconde, au moment où vous avez dit ça, sans que je sache même pourquoi, j'ai senti quelque chose qui m'a fait rougir, par exemple.
Et vous arrivez à recréer cette seconde ?
C'est de le recréer. Alors il faut à ce moment-là le développer comme un film au ralenti. Et à ce moment-là, avec beaucoup d'efforts, vous arrivez à retrouver, et ça demande beaucoup d'efforts, le mouvement intérieur qui a abouti à cette rougeur que vous n'avez même pas... ça vous est arrivé sans que vous sachiez ce que c'est. N'est-ce pas ? Eh bien, tout ça, ce qui se passe chez moi, ça vous arrive sans que vous sachiez ce que c'est.
Mais ce mouvement intérieur obéit à une logique...
Il obéit à un certain déroulement d'une véritable action intérieure, et s'est passé quelque chose. Je me rappelle, j'avais lu dans la correspondance de Flaubert, Flaubert disait, on n'a encore jamais trouvé ce que c'est que, par exemple, la sympathie. Eh bien, je me suis dit, tiens, ça touche assez près à mes recherches, parce que finalement, quand ça aboutit à ces simples mots, moi je trouve que quelqu'un est sympathique, qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'est passé tout un énorme travail intérieur, qui est aux limites de la conscience, on ne saurait pas dire sur quoi c'est basé, qui vous fait dire que cette personne est sympathique. C'est tout un énorme déroulement et qui englobe des quantités de choses, toute votre personnalité, tout ce qui émane de l'autre, des quantités de choses qui sont assez mystérieuses et qui sera très difficile de retrouver. Et globalement, très rapidement, vous dites ça. Ce mot recouvre un monde de sensations. Si vous les regardez au microscope et au ralenti. Alors finalement, c'est à travers une loupe grossissante et au ralenti que je peux les retrouver. Prendre un mouvement comme celui-là, en lui-même, et puis montrer ce travail intérieur assez complexe qui se fait et qui aboutit au fait que vous dites, ou que même vous sentez, même sans vous le dire, que telle personne est sympathique.
Mais est-ce que l'analyse de ce mouvement intérieur change ensuite votre façon de vivre, votre façon de réagir ?
Absolument pas, parce que je vis sur le même rythme que tout le monde, c'est au prix d'un énorme travail que je peux retrouver ça, parce que ça m'intéresse de regarder ça à travers des verres grossissants et de le refaire. Mais dans la vie, je suis pressée comme tout le monde, j'éprouve très rapidement des sensations qui passent très vite, comme tout le monde, on n'a pas le temps de s'y arrêter, on ne pourrait pas vivre, ce n'est pas un mode de vie, c'est de la littérature, on est dans l'art, si on veut, n'est-ce pas ? un univers, c'est comme un univers poétique qui n'a rien à voir avec la vie courante. Et dans la vie courante, eh bien, on est obligé d'abord de se fier aux apparences qui sont nécessaires, qui sont une simplification. Vous dites par exemple, une telle personne est avare. J'ai fait tout un livre pour montrer que quand on dit c'est un avare, ça n'a aucun. Finalement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie une quantité immense de choses, tellement immense que le personnage qui cherche à trouver ce qu'il y a derrière ce mot avare est obligé d'abandonner. Il y en a trop. Bien, moi, je suis bien obligé dans la vie de remarquer que certaines personnes ont certaines conduites qui sont celles de l'avare et par conséquent avoir à son égard des attitudes de prudence. Je n'irai pas lui emprunter de l'argent ou des choses comme celle-là. Mais ça ne veut rien dire. Ce sont des choses de pure. C'est une façon pratique. Et je vis dans la vie pratique et courante comme tout le monde.
Vous parliez de microscope. Vous avez une mentalité de savant ?
Non, c'est difficile, n'est-ce pas, c'est peut-être même maladroit d'employer ce mot de microscope, parce qu'alors on a trop l'impression qu'il y a là quelque chose et qui existe en dehors du langage, qui pourrait se passer de langage. En réalité, c'est tellement lié, le langage et cette sensation-là, qu'on ne peut pas les séparer, et que s'il n'y avait pas une forme et un langage pour la faire vivre, cette sensation, elle n'aurait pas d'existence. Alors qu'une expérience scientifique existe en soi. Ça, c'est lié, n'est-ce pas, au langage. Ça existe d'une manière tellement vague dans chacun de nous. Ça passe si fugitivement, si rapidement, que tant que ça n'a pas été pris, justement, et transformé, et grossi, et ralenti, et transformé par les mots, ça n'a pas d'existence. C'est fugitif, c'est rien.
Là, vous parlez d'un mouvement qui finalement est extrêmement fin, et pourtant le langage est à la disposition de tout le monde.
C'est la grande difficulté. C'est de prendre le langage qui est à la disposition de tout le monde, qui sert à exprimer les choses les plus courantes et les plus banales, et d'essayer d'y glisser ça. Et je crois que c'est ça qui fait que le roman est tellement en retard sur la musique ou sur la peinture, c'est qu'il est obligé de se servir du langage qui sert à n'importe quoi. Et où les gens retrouvent, quand ils l'entendent, ce qu'ils ont l'habitude d'entendre toute la journée. Ils retrouvent les mots courants. C'est comme ça que quand ils écoutent mes dialogues, ils ont l'impression, mais je n'entends que ça. Ce n'est pas vrai. Ils ne l'entendent pas comme ça. Ce n'est pas les dialogues qui s'entendent pour de bon. Mais ça ressemble, ça a la même, si vous voulez, cette espèce de rythme du dialogue ordinaire. Ce sont les mêmes mots.
Nathalie Sarraute, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps ?
C'est difficile de répondre à ça. Il y en a tellement que de la plus grande, vous me posez une question très embarrassante. Je crois que ça a existé de tout temps. Il y a un manque d'honnêteté intellectuelle qui se manifeste dans des quantités de domaines. Il y a un certain... Ce sont des partis pris, des œillères qui font qu'on nie la réalité, on veut l'ignorer, alors c'est difficile, ça nous amènerait très loin.
Et si l'on prend cette négation au moment où elle affleure, comme vous le disiez tout à l'heure, ce mouvement intérieur au moment où il s'exprime ?
Je ne me suis pas occupée spécialement de ça, j'ai l'impression que ce serait assez simple, ce n'est pas exactement ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse est plus ténu que ça. Ces négations, généralement, ont des causes qui sont assez faciles à retrouver et qui sont déjà prises dans de la psychologie connue et banale. Alors, ce n'est pas ça à quoi je m'attache. Il faut que je m'attache à quelque chose qui n'a pas de place encore dans les sentiments connus et dans la psychologie, qui n'est pas définissable.
Qu'est-ce que c'est que l'honnêteté pour vous ?
C'est quand on est sûr et qu'on voit que quelque chose existe et que ça va à l'encontre de votre confort, de vos convictions, que ça vous amène à des révisions quelquefois déchirantes, que vous êtes prêt à tout sacrifier pour vous incliner devant quelque chose qui est là et qui est vrai.
Vous l'avez vécu, cela ?
Mais on le vit à chaque instant. On le vit à chaque instant. Et à chaque instant, tout d'un coup, une chose apparaît et on est obligé de la reconnaître alors qu'on ne veut pas la reconnaître parce qu'elle vous dérange, parce qu'elle vous gêne, parce qu'elle enlève une espèce d'harmonie, de cocon dans lequel chacun de nous est enveloppé. Elle brise ce cocon douillet. Alors, c'est à chaque instant un travail que chacun est obligé de faire.
La solitude de l'écrivain n'a rien à voir avec un cocon douillet.
Je ne dirais pas que c'est tellement douillet, parce que je crois que ça comporte... La solitude est aussi quelque chose qui est très angoissant. Ce n'est pas tellement facile à supporter. La distraction, quelquefois, est extrêmement enviable. J'envie beaucoup les gens qui aiment, par exemple, jouer. Je n'ai jamais su jouer. Aux échecs, aux dames.
Avec les mots, quand même, vous jouez.
Peut-être. Je me distrais assez difficilement. Et j'envie les gens qui peuvent, justement, se distraire. Alors, la solitude est à la fois quelque chose qui est douillet, parce que ça vous enveloppe, vous êtes écarté du monde extérieur, mais vous êtes écarté aussi de tout ce que le monde extérieur vous apporte d'excitant, d'apaisant.
C'est-à-dire que la solitude ramène à la mort.
Elle ramène très souvent. Elle ramène, la mort est beaucoup plus présente dans la solitude. C'est très difficile quand on commence à parler de ces choses-là. Et en même temps, quand la solitude est remplie par un effort et par le travail, elle est beaucoup plus tenue en même temps en respect. Alors, elle est à la fois plus fortement tenue, peut-être en respect, là, parce que là, on s'oublie complètement, on oublie tout. Mais dès qu'on cesse de travailler, quand on est dans la solitude, il y a un grave danger, c'est qu'elle revient en force.
C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas d'harmonie, mais il y a un certain équilibre.
Oui, un équilibre qui est assez pénible, puisque la mort est là beaucoup plus présente, souvent, pas toujours, dans la solitude qu'elle n'est dans la distraction.
Nathalie Sarraute, quel est l'événement de ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
J'ai un caractère assez pessimiste et j'ai en ce moment une vue assez pessimiste de l'avenir. Mais j'espère, il faut toujours espérer. Je ne vois pas d'événement spécial dont je pourrais parler, mais j'espère, il faut absolument espérer qu'il y aura moyen, avec les progrès qui ont déjà été accomplis, qu'ils se développeront et qu'il y aura un jour viendra où la population du globe d'abord ne prendra pas des proportions effarantes dont on nous parle et qui sont difficiles même à envisager, et qu'elle pourra jouir de toutes sortes de bienfaits répartis sur tous. Il y a déjà eu une prolongation de la durée de la vie, il y a déjà eu d'énormes améliorations dans bien des domaines. Et alors j'espère que ça pourra se répandre sur le monde entier, et que tout le monde pourra en recevoir sa part. Il faut l'espérer, autrement c'est difficile de vivre sans l'espérer.
Et cet espoir-là, il a une importance pour votre façon d'écrire, pour votre travail d'humain ?
Non, ça n'a rien à voir. C'est une chose qui est à côté. Ça n'a rien à voir, ça. Ce travail-là, ça n'a rien à voir avec l'économie mondiale. Il est même très possible qu'à ce moment-là, on ne lira pas, ou on ne lira pas ce que j'écris, enfin ça n'a rien à voir, c'est un avenir assez lointain et encore très utopique que j'envisage là.
Vous dites rien à voir, votre vie est ainsi fractionnée par des cloisons qui protègent
la vie de tout écrivain, de toute personne qui fait un effort créateur, eh bien il y a l'effort. Mais je ne sais d'ailleurs même pas pourquoi je dis de tout écrivain, de n'importe quelle personne qui fait un travail, eh bien son travail est extrêmement centré sur quelque chose de très précis, et puis il y a tout le reste de l'univers, et puis après il ouvre le journal, il écoute la radio, il voit les événements, il les juge, il réagit très fortement. Ça n'a rien à voir avec le travail que vient de faire par exemple le chirurgien quand il a son masque, il opère, et puis il sort de là, et il est plongé dans cette vie. C'est pourquoi ce sont deux choses qui sont tout à fait séparées.
Merci Nathalie Sarraute. Je vous rappelle notre adresse, parti pris, pièce 4718A, 4718A, maison de Radio France, 75 790, Paris, Sedex-Sède. Merci d'être avec nous et bon week-end.
C'était un numéro de Parti pris de Jacques Pogam avec Nathalie Sarraute, diffusé pour la première fois le 2 juillet 1976.